Cinémal.
What a story, Mark.
Fini !
Je ne me laisserai jamais manipuler.
Si vous voulez vous adresser à moi, essayez plutôt de causer à mes burnes.
Eh bien, grande première ce soir, donc puisque Elsa parle de livres que vous pouvez trouver dans les BU, eh bien moi, je ne vais pas du tout parler de livres. Du moins, c'est pas encore le moment de parler du roman de Steven Seagal, mais ce jour viendra. Bon, là, je m'égare un petit peu en disant ça. Donc là, je vais parler en fait d'une adaptation de roman. Alors, c'est qui le Rose élu ? Une adaptation de Bram Stoker. Ce n'est pas Dracula. Hein, pour ça, rendez-vous vendredi. Car Bram Stoker, bah, il n'a pas écrit que Dracula. Il a aussi fait Le Repère du Ver Blanc, livre adapté par Ken Russell, connu pour son film Les Diables. Et qui, à l'instar de Lucio Fulci, a plutôt mal fini sa carrière. Et donc, Le Repère du Ver Blanc est une adaptation libre qui se passe à notre époque, enfin, dans les années 80. Et si vous pensez qu'un auteur à la barre permet d'éviter les erreurs techniques, eh bien, détrompez-vous. Alors, de quoi parle Le Repère du Ver Blanc ? Eh bien, d'Angus Flint, joué par Peter Capaldi, le 12e docteur de la série Doctor Who. Et donc Angus, eh ben, c'est un archéologue en herbe qui, lors de fouilles dans une ferme écossaise, découvre un crâne de serpent géant avec des pièces datant de l'époque romaine. Et il est convié le soir à une soirée par ses amis Marie et Eve, subtilité, organisée par le châtelain du coin, Lord James Dumpton, joué par Hugh Grant, descendant d'un seigneur guerrier qui, d'après la légende, aurait tué un ver géant dans les environs. Légende que James célèbre chaque année, et il n'est pas le seul à posséder un château, puisqu'il y a aussi Lady Sylvia Marsh, jouée par Amanda Donoro, dans les environs. Et donc Lady Sylvia Marsh, qui sera donc l'antagoniste du film, eh ben, voue un culte au ver blanc qu'elle nourrit à partir des gens qu'elle rencontre dans les environs. Donc une dame qui sera le principal intérêt du film, car même si elle apparaît en nuisette ou seins nus durant tout le film, pour le plus grand plaisir des adolescents découvrant leur corps et aussi des hommes et de quelques femmes aussi, hein, voilà. Donc voilà, les années 80, toi-même tu sais, à force d'écouter mes chroniques de films de cette décennie. Décennie où on croyait encore au passage que la schizophrénie était un dédoublement de la personnalité, puisqu'ils en parlent aussi dans ce film. Mais on va revenir à la Lady Dimitrescu des années 80, puisqu'en dehors de ses accoutrements, elle est à l'origine des scènes les plus nanardes du film, car bon, fallait bien que le film vrille à un moment pour que j'en parle. Alors pour commencer, elle est à l'origine indirectement de la scène rigolote au premier degré, enfin premier degré, faut le dire vite, hein, où Ernie, le flic, veut l'arrêter et appelle du renfort. Malheureusement, son adjoint ne peut pas venir parce que c'est Ernie qui a pris le seul véhicule. L'adjoint, il ne peut pas appeler le taxi car le seul chauffeur du village, eh ben, il est en cellule de dégrisement. La cerise sur le gâteau étant que le vélo de l'adjoint a un pneu dégonflé et que sa pompe à vélo est cassée, ce à quoi Ernie lui propose de se la fourrer dans le cul. Alors que c'est inutile vu qu'elle est cassée, d'après un ami. Puis Ernie va se faire mordre la cheville par un serpent, mais heureusement, Sylvia, ben, elle lui suce le venin sans cracher. Je viens de réaliser l'horreur de ma phrase, en fait. Et je pense même qu'il y avait, à ce moment-là, dans le film, une certaine métaphore sexuelle. Enfin, ouais. Autre scène, Kevin, le scout autostoppeur qui ne stresse pas de se retourner et de voir une voiture qui ne pouvait pas être là juste avant. Mais bon, comme c'est Sylvia, qu'elle est bonne, elle a des portes jartelles et que Kevin a les hormones qui travaillent, bah, il monte dans la voiture et se retrouve avec Sylvia en nuisette. C'est Sylvia qui est en nuisette, hein, pas Kevin. Et il joue à serpents et échelles, mais Sylvia fait comprendre qu'elle est plus intéressée par le serpent qu'à Kevin dans son pantalon. Mais il n'y a pas que dans la réalité que c'est fou. Les hallucinations quand un perso se fait empoisonner par Sylvia valent aussi le détour. Ne serait-ce que pour le mauvais goût, avec un petit relan de clip de hard rock bas du front sur MTV fait par des adolescents se croyant subversifs. On a donc droit à des nonnes violées par des légionnaires romains, avec un Jésus crucifié où s'enroule le fameux ver blanc dans une lumière orange dégueulasse. L'autre commence comme une blague nulle, avec Hugh Grant dans un avion attaché à un siège, pendant que Sylvia en hôtesse avec Porte-Jartel se bat contre une autre hôtesse de l'air avec vue sur la culotte. Et enfin, dans l'affrontement final, Sylvia se pointe avec un god ceinture pour pénétrer l'une des femmes judicieusement donc appelées, comme je vous rappelle, Marie et Eve du film, voilà. Et à ce moment-là, je me suis même demandé si j'avais pas lancé la playlist porno de lesbienne femdom d'une amie. Tout ça, ça fait que, en plus de faire des chouettes parties de Camoulox, eh bien, le film, on peut en venir, il est bien, et surtout, mais j'en suis un moment venu à déduire un truc. Je me suis dit, est-ce que ce film n'a pas été écrit, tourné, mixé et monté avec une main dans le slip ? Bon, sauf que moi, je n'ai pas fait pour rédiger ma chronique. Hein. Et encore, je ne dirai rien de plus, si ce n'est que la fin implique un kilt, une cornemuse et une mangouste, pendant que Hugh Grant fait le poseur, puisque sa seule participation au film est de découper une femme serpent en deux avec une clé mort. Je parlais de la technique, et eh bien croyez-le ou non, La fin nous balance des raccords bizarres avec des persos qui sortent du champ à droite et courent à gauche le plan suivant. Des gens loin qui sont au premier plan ensuite, mais je dois admettre quand même que le grand angle où Sylvia ramasse la tête du verre est cool. La tête paraît géante au début et en fait, bah non. Tout ça en plus sans utiliser de demi-bonnette, c'est beau. Alors, est-ce que vous pouvez regarder le repère du verre blanc ? Ben rien, hein, oui, rien que pour ces séquences hallucinées allant loin dans la provoque puérile pour effrayer le bigot. Eh bien voilà, le film se veut sûrement nettoyer les films gothiques de la Hammer, mais finit par être juste ridicule avec la fin ouverte la plus pétée possible. Donc Peter Capaldi, il s'injecte un anti-allergène au lieu d'un anti-venin parce que l'infirmière a confondu les commandes et ajoute « Oh ben faut pas vous faire mordre par un serpent MDR, ce serait con, lol !» Et en plus, le film passe tout seul. Donc, regardez Le repère du ver blanc, film d'auteur nanar par excellence. Mon seul regret, c'est de ne pas avoir vu Sylvia se battre contre un Fury déguisé en mangouste, la némésis des serpents. Mais ça aurait été de la gourmandise, je pense.